Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des politiques. Les politiques ont-ils besoin des réseaux sociaux pour exister?
Tu nous as fait une entrée à la Jean-Jacques Bourdin. Les politiques.
Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan.
Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis qui nous suivent sur Twitch ce matin. N'hésitez pas, tous les matins à 9h, maintenant Le Super Daily, on est en direct sur Twitch. On n'a pas envie de se faire beau pour rien, donc venez nous voir.
Ouais, bien dit. T'as raison. Les politiques ont-ils besoin des réseaux sociaux? On n'a jamais autant parlé politique sur les réseaux sociaux. On les voit de partout en ce moment. Sur Twitch, évidemment, on va parler de ça. Mais aussi sur TikTok, mais aussi sur Twitter, bien sûr. Ça, c'était leur chasse gardée jusqu'à présent. Mais ils sont absolument partout.
Ouais, ce qui est assez impressionnant, c'est la manière dont ils appréhendent les nouvelles plateformes, en fait. Hein, parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu ou vu de la politique sur Facebook, sur Twitter, voilà, sur des plateformes un peu comme ça. Mais les nouvelles plateformes comme TikTok, comme Twitch, aujourd'hui Instagram, c'est déjà devenu un peu plus courant. Bah, c'est des plateformes qui étaient encore assez éloignées du monde politique et surtout des hommes et des femmes politiques. Il y a aussi ça dans la nuance, c'est que c'est pas seulement parler politique, c'est aussi voir des personnalités politiques qui viennent prendre la parole sur ces plateformes-là. Bien sûr, il y a eu tout ce qui s'est passé là ces derniers 10 jours avec Samuel Etienne, François Hollande, Jean Castex, qui nous ont donné encore plus envie de faire cet épisode. Mais ça fait un moment que ça nous trottait dans la tête quand même. On va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé depuis quoi, un an à peu près en France.
Ouais, alors justement, parlons de Samuel Etienne, hein, parce que Samuel Etienne, il s'est retrouvé au cœur d'une affaire, plusieurs affaires même. Hein, il est en train de chambouler la sphère social media et notamment du côté de Twitch. Samuel Etienne, tiens, je veux bien que tu réexpliques comment déjà Samuel Etienne, parce que on pourrait faire un épisode
dédié sur
Samuel Etienne sur Twitch, parce que le succès...
Samuel, si tu nous regardes, c'est la concurrence, Samuel. Hein, tous les matins, il est en direct en face de nous.
Hein. Parce que Samuel Etienne, le succès qu'il a actuellement sur Twitch est passionnant. Il en dit beaucoup sur l'évolution de la plateforme et il en dit aussi beaucoup sur le lien étroit qui est en train de se tisser entre le journalisme, les réseaux sociaux et forcément aussi les politiques.
Bah, Samuel Etienne, c'est un outsider hein, sur Twitch. Clairement, chaque année, les plus grosses stars de Twitch, en fait, en France, elles se retrouvent comme pour une sorte de téléthon du stream où pendant tout un week-end, bah, les plus grosses stars qui essayent de gagner en fait, un maximum de dons, un maximum d'argent pour une association. Et cette année, si je ne dis pas de bêtises, enfin, l'année dernière, c'était Samuel Etienne qui présentait l'émission et qui faisait un peu le passeur de plat au milieu de tous ces stars du stream. Et en fait, pendant le week-end, à force de manque de sommeil, le défi de mettre Samuel Etienne sur Twitch a commencé à monter. Les gens qui étaient dans les Discord, dans les chats de Twitch ont commencé à chauffer à fond Samuel Etienne pour qu'il aille sur Twitch et il a fini par se lancer et monter sa propre chaîne. Donc tous les matins sur Twitch, il fait une petite revue de presse. C'est faut savoir que c'est quand même une chaîne aujourd'hui qui marche quand même plutôt bien, hein, parce que en moyenne le matin, c'est entre 50 000 et 130 000 vues pour Samuel Etienne.
C'est énorme.
Sur Twitch, c'est quand même énorme. Et récemment, Samuel Etienne a commencé d'abord par inviter François Hollande sur sa chaîne. Donc, François Hollande sur sa chaîne, ça a fait plus de 700 000 vues hein, quand même. Donc, pareil, des chiffres fous.
Juste une remarque là-dessus. Est-ce que tu le glisses comme ça? On parle quand même d'un ex-président de la République française.
Oui, je parle de François
Twitch.
Parce qu'on se connaît bien.
Mais... non, mais remettons quand même le contexte. C'est impressionnant. On parle d'un ex-président de la République française qui
vient prendre la parole
sur Twitch.
C'est assez fou. Et ça va même encore plus loin, puisque cette semaine, c'est carrément Jean Castex, il y a 3 jours, là, qui allait sur la chaîne de Samuel Etienne. Donc Jean Castex, c'est quand même le premier ministre en fonction de la France aujourd'hui. Donc c'est sûrement la première fois qu'un ministre ou une personnalité politique avec des fonctions aussi importantes à la tête de l'État prend la parole sur un réseau social, mais quelconque d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas vu de premier ministre arriver sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook dans un live face à des gens, etc. C'est très rare. Donc Jean Castex, c'est assez fou qu'il arrive là. C'est pareil, les chiffres sont énormes. C'est 600 000 personnes alors que ça fait deux jours que la vidéo est sortie et qu'elle a été vue en live. Donc voilà, je vous ai mis le lien vers la chaîne de Samuel Etienne si vous voulez aller en voir un petit peu plus. Mais en tout cas, déjà, c'est intéressant de voir le Premier ministre prendre la parole sur Twitch. Et pourquoi il prend la parole sur Twitch aussi? Parce que c'est un espace de médiatique au final, Twitch, comme un autre pour lui, à ses yeux. Et c'est une manière d'aller toucher des gens qu'il n'arrive pas à toucher quand il fait des conférences de presse, quand il fait des communiqués de presse, quand il a un article, une interview ou quelque chose.
Ouais, ouais. Alors, Jean Castex sur Twitch de chez Samuel Etienne, bah, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le stream, si je peux dire. Hein. C'était gros. Vous pouvez la garder, c'est cadeau. En vrai, ça a fait jaser, hein, forcément. Alors, il s'est expliqué, hein, Samuel Etienne, en disant « Je ne vais pas inviter 1000 personnes sur ma chaîne, mais je crois qu'il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités. » Ça y est, on y est. Est-ce que c'est le rôle de Twitch, ça? Est-ce que c'est le rôle du direct sur les réseaux sociaux? Parce que Twitch, c'est le temple de la contre-culture web. Hein, c'est vraiment l'espace pour ça. Eh bien, il est en pleine mutation, hein, ce temple. Il se passe des choses. Ouais. Ça a été longtemps perçu comme un lieu de contre-culture web, hein, Twitch.
C'est vrai.
Et si tu te balades encore sur la plateforme, elle est très, très marquée de ça. Hein, et elle est en train de s'ouvrir. C'est un sujet dont on a déjà parlé au grand public, hein, et notamment depuis le premier confinement. Les audiences sur Twitch ont explosé. Hein. Hier, cette plateforme, elle était 100% gaming. Et maintenant, elle a commencé à sérieusement diversifier ses sujets. Il y a des nouvelles catégories qui ont été créées sur la plateforme. Il y a une catégorie que nous, on utilise, hein, qui s'appelle Token Podcast. Il y a une catégorie qui s'appelle Just Chatting, donc discussion in real life. Tu as des trucs qui n'ont plus rien à voir avec le gaming. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, désormais, petit à petit, cette plateforme, elle est coincée et elle est en train de bouger. Et là, forcément, ça passe moins bien. Ça passe moins bien pour un certain nombre de Twitchers un peu hardcore qui sont en train de dire la plateforme, elle est en train de se trahir.
Ouais, alors il y a différents discours. Hein. Il y a un débat autour de ça. Il y a ceux, effectivement, qui sont dans une vue un peu hardcore de Twitch. Twitch, c'est du gaming et ça ne devrait pas être de la politique tout court. Il ne devrait pas y avoir de politique du tout sur la plateforme. À ces personnes-là, bah, Samuel Etienne a répondu déjà sur Twitter que s'ils ne voulaient pas regarder ces vidéos, ils n'étaient pas obligés de les regarder. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a 700 000 personnes qui regardent François Hollande sur Twitch, on peut se demander si, au final, ce contenu-là, il a sa place, quoi, j'ai l'impression, en tout cas. Et puis, après, il y a un autre débat autour de la manière dont François Hollande et Jean Castex, surtout Jean Castex, a pris la parole. Alors après, c'est un Premier ministre en fonction aussi. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on puisse l'interpeller comme ça, comme on voulait. Mais il y avait eu un petit encadrement par Samuel Etienne sur le chat, et donc un règlement simple où il fallait 3500 points de chaîne pour pouvoir poser une question, ce qui veut dire qu'en gros, il fallait être une personne qui suivait depuis longtemps la chaîne de Samuel Etienne pour pouvoir poser des questions à Jean Castex. Et si vous étiez un petit nouveau qui arrivait directement comme ça, comme par exemple un journaliste du Figaro qui en parle, qui dit que lui, il s'était jamais intéressé à ça avant, qu'il est venu voir le live et qu'il voulait poser des questions, mais qu'il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas ces points de chaîne-là. Donc, c'était quand même un petit peu encadré et tout le monde ne pouvait pas interpeller le Premier ministre.
Ouais, alors pour moi, ce sujet autour de oui, Twitch, c'est pour le gaming, c'est certainement pas pour la politique. Ouais. Je trouve que c'est un débat qui est un vieux débat, surtout qui est déjà dépassé. Déjà derrière nous. Ouais. Il y avait la chaîne notamment Acropolis, hein, qui avait déjà donné le ton. Ça fait longtemps qu'elle est sur la plateforme. C'est une chaîne qui est dédiée à la politique. Hein. Elle s'est vraiment créée comme ça. Je crois qu'on en parlait déjà il y a 5-6 ans.
Oui, alors, dans le Super Deal, on a parlé déjà il y a 2 ans au moins de cette chaîne.
Exactement.
Acropolis.
J'avais lu des trucs sur l'équipe qui gérait Acropolis depuis. Ça fait un moment qu'elle est là, cette chaîne. C'est clair. En 2019, eh ben, on avait déjà pu assister à une grande première en France. Pendant 11 heures, le YouTuber Hugo Travers, hein, qui est aussi très actif, hein, sur ces sujets sur Twitch, et les membres de la chaîne Twitch Acropolis, ils ont tenu un débatton, c'était en 2019. 10 ministres se sont succédés pour débattre avec la communauté Twitch, avec des jeunes aussi, hein, qui étaient là sur le plateau, autour de 4 thématiques. Voilà, un grand débat en public sur Twitch avait rassemblé à l'époque quand même 300 000 personnes, ouais, et on était énorme. En 2019. Donc, c'est pas un truc qu'on est en train de découvrir. Peut-être que le grand public est en train de découvrir le sujet politique sur Twitch, mais c'est là depuis un petit moment. Et puis, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est massif aussi. Hein. Twitch, c'est déjà largement un territoire d'expression politique.
Oui, alors, il faut déjà savoir que des mecs comme Bernie Sanders, ou Donald Trump ont leur chaîne Twitch, hein, aux États-Unis, même s'ils n'ont pas encore forcément pris la parole sur leur chaîne. Elle est créée, elle existe, et
Bernie Sanders, 162 000 abonnés sur sa page Twitch, et il y a des tables rondes, il y a des débats. Tu peux aller voir son compte Twitch actuellement. Il y a des vidéos qui sont disponibles en archive. Donc, c'est une chaîne qui est vivante.
C'est une chaîne qui est vivante. Oui. Après, c'est lui qui ne prend pas la parole directement dessus. Mais en tout cas, il y a une chaîne qui est vivante pour ses amis politiques, je dirais. Et puis, l'année dernière, par exemple, il y a eu beaucoup de prises de parole sur la plateforme Twitch pour aller faire voter les jeunes, par exemple. Donc, il y a une élue démocrate de New York qui a connu un succès énorme en organisant une partie de jeux vidéo qui avait pour but justement de pousser les jeunes à aller voter à la dernière élection présidentielle qui a eu lieu en fin d'année dernière. Et à cette époque-là, c'est monté jusqu'à 5 millions de vues cette vidéo sur Twitch, donc c'est quand même assez énorme.
Alexandria Ocasio-Cortez.
Exactement, voilà, bravo pour ton espagnol.
et du coup, ce qu'il y a d'intéressant aussi à noter, c'est qu'en France, rappelons juste ça parce qu'on a tendance à l'oublier, souvent on regarde du côté des États-Unis où effectivement, là les réseaux sociaux sont littéralement envahis et notamment par le publicitaire politique. Mmh. En France, la publicité politique, c'est interdit. Il y a une loi pour ça, c'est interdit depuis la loi de 1990, donc c'est finalement assez récent. Ouais. Et elle avait pour objectif, cette loi, de limiter le pouvoir de l'argent dans la vie politique. Alors là, je vous laisse juger de savoir si oui ou non ça a fonctionné. Mais en tout cas, oui, la France, heureusement, ce n'est pas les États-Unis. Et du coup, il n'y a pas de publicitaire. Mais par contre, il y a des territoires organiques, il y a des territoires de prise de parole. Et c'est d'autant plus pour ça que depuis un an, peut-être, en préparation des élections à venir, les réseaux sociaux sont le nouveau terrain de bataille des politiques.
Et surtout, moi, j'ai envie de dire les nouvelles plateformes, parce que clairement, depuis un an, on voit même le gouvernement lui-même qui essaye de parler aux jeunes, entre guillemets. Alors, je mets des gros guillemets à ça, parce que c'est quand même parfois, les ficelles sont un peu grosses. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte que, de toute façon, dans les études, on le voit aussi, les plus jeunes, ils ne consomment pas l'information dans les journaux papier ou à la télévision de manière classique, comme les générations précédentes. Les moins de 30 ans, ils consomment l'information différemment et ils la consomment principalement sur les réseaux sociaux. Donc, comme nous, on peut le dire pour des marques habituellement, vous voulez parler à vos audiences, allez sur les réseaux sociaux, allez là où ils sont, au lieu de vouloir absolument les ramener là où vous êtes, les politiques font le même chemin en fait. Ils se disent, il faut que j'aille parler à mes audiences bêtement là où elles sont. Et du coup, on retrouve le gouvernement qui parle sur YouTube et Twitch avec le porte-parole Gabriel Attal. On retrouve Marlène Schiappa et Emmanuel Macron sur TikTok. On retrouve Arnaud Montebourg en train de débattre sur Clubhouse.
Oui, totalement.
Donc après, si on peut rentrer un peu dans le détail de ces exemples sur TikTok.
Certains étaient plus réussis que d'autres.
Voilà, sur TikTok par exemple, il y a eu pour moi une erreur peut-être dans la manière de le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Marlène Schiappa avait pris la parole à ce moment-là sur la plateforme. Ça rentrait en fait dans une démarche qui était à la base plutôt cool, puisque c'était en fait une démarche entre son ministère et la plateforme TikTok. Il y avait un accord qui avait été passé et c'était un partenariat pour sensibiliser les jeunes sur les violences qui étaient faites aux femmes. Donc au début, on se dit ok, le message est quand même vachement positif, c'est cool. Sauf que la prise de parole de la secrétaire d'État, il me semble qu'elle était secrétaire d'État à cette époque-là, Marlène Schiappa, était vraiment à côté de la plaque. Ça fait vraiment la boumeuse qui arrive et qui veut faire la jeune sur TikTok, et ça ne peut pas fonctionner. Donc mon petit conseil, c'est quand même rester un peu qui vous êtes quand vous arrivez sur ces plateformes là les personnes qui sont dessus, les utilisateurs savent que vous êtes premier ministre, ministre ou secrétaire d'État. Voilà, ça sert à rien de...
Donc Marlène, Jean, Emmanuel, voilà. Écoutez bien le conseil de Maître Chélil ce
matin.
C'est
le conseil Chélil de matin.
Restez vous-même. Justement, il y a une émission qui, pour le coup, sur le ton en tout cas, est assez fidèle à la personne qui l'incarne, c'est Sans Filtre. C'est une émission mensuelle du gouvernement sur Twitch. Ouais. Du gouvernement. Pourquoi du gouvernement? Parce que c'est le porte-parole du gouvernement, t'en as parlé tout à l'heure, Gabriel Attal, qui a lancé cette émission mensuelle en février, Sans Filtre. Voilà, c'est sur Twitch. Pareil, il y a pas mal d'audience, monde, et puis avec des stratégies évidemment de rameuter un certain nombre d'influenceurs, en tout cas de porte-parole peut-être de la jeunesse ou d'un courant de pensée au cœur de l'émission.
Ça, je trouve ça ultra intéressant comme démarche, parce que là pour le coup on est vraiment dans il pourrait y avoir sur TF1 le président qui prend la parole avec un journaliste de France 2, un journaliste de TF1 qui lui pose des questions diffusées sur les deux chaînes et tout.
Et là t'as un Joy Fitness.
Voilà, là c'est un peu le même principe, parce que t'as Gabriel Attal Attal qui vient pour, en gros, bah, expliquer la politique du gouvernement en ce moment et qui est confronté à différentes personnes qui lui posent des questions, des jeunes, une fois de plus, qui sont souvent là influenceurs ou certains pas, mais qui n'ont pas forcément un background et une culture politique qui leur permet aussi de venir interroger et répondre surtout à un homme politique comme Gabriel Attal. Il faut savoir que les hommes politiques, ils sont rompus à l'art du débat, à la langue de bois, à discuter avec
des
journalistes.
Ils ont bouffé de média training, mais après, voilà. Ils ne savent pas gérer un chat tweet
non, sur Twitch. Non, ça non, par contre. Mais tu vois, c'est Enjoy Phoenix qui faisait un retour quand même sur cette expérience, cette émission, où elle expliquait qu'elle avait trouvé ça, elle, ultra intéressant et enrichissant de pouvoir poser des questions comme ça et de transmettre les questions d'un chat Twitch à Gabriel Attal, parce que c'était en direct sur Twitch, en direct sur YouTube.
Au passage, j'ai vu des extraits. Je trouve que Enjoy Phoenix, la tonalité avec laquelle elle s'adresse à Gabriel Attal, elle est plutôt bonne et surtout, elle est directe. Hein. Il y avait des questions fermes et des questions qu'on aimerait parfois entendre à la télé, hein, concrètement.
Exactement. C'est un peu ce qu'on peut se dire. Après, elle-même, la limite qu'elle y voyait, c'est justement sur les relances et les réponses pour... en fait, c'est pas son métier. Et du coup, bah, forcément, il n'y a pas trop d'esprit contradictoire au milieu de ce débat. C'est plutôt Gabriel Attal qui vient dérouler la communication du gouvernement sans vraiment avoir quelqu'un en face de métier qui puisse lui, comme on dit, tenir le crachoir un peu.
Ouais. Et voilà, et ben, vous voyez ce qui est en train de se produire. Les influenceurs sont dragués très sérieusement par les politiques et ils sont dragués aussi pour leur périmètre d'influence. Parfois, ils servent de faire valoir à une communication politique. Ça, c'est quelque chose qui s'est accentué notablement, on va dire, depuis un an et demi, deux ans, ouais. Cette communication politique via l'influence marketing. Ben oui, si je peux pas acheter de publicité sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai comme levier de visibilité? Ben, j'ai l'influence marketing, évidemment. Comme toute marque, c'est une marque, un homme politique ou une femme politique. Et du coup, depuis le début de l'année, eh bien, il y a multiplication de collaborations entre eh bien, des organismes plus ou moins officiellement d'État et puis des influenceurs. Alors, on pense à Enjoy Phoenix à l'instant. On pense aussi à l'Enea Situation qui s'est retrouvée sur des trucs. Et puis, plus dernièrement, McFly et Carlito.
Oui, et il y avait eu aussi avant ça Thibaut InShape hein, qui avait fait la promotion du service national universel. Ça avait déjà fait un petit tollé à cette époque-là dans le monde de l'influence marketing. Là, c'est directement Emmanuel Macron quand même qui a pris la parole sur les réseaux sociaux pour défier McFly et Carlito pour qu'ils fassent une vidéo, une chanson qui ferait la promotion des gestes barrières en leur disant si vous passez les 10 millions de vues avec ce clip, je vous invite pour qu'on fasse une vidéo ensemble à l'Élysée. Donc on sent là pareil, hein, on sent l'agence qui est derrière et
c'est scripté,
voilà, et tout
évidemment.
Est scripté parce que Emmanuel Macron, vous en doutez, va pas se risquer à aller prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire je vous défie de et qu'après en face les deux youtubeurs lui disent genre, oh non, ça nous intéresse pas, merci. Donc tout ça est scripté et au fond ça fonctionne hein, dans la communication. Après
14 millions de vues sur la vidéo de McFly et Carlito, bien sûr que ça, en termes de portée,
c'est ça,
notoriété,
de notoriété, ça fonctionne. Énorme. Après je sais pas en termes de capital sympathie vraiment les études ce qu'elle renvoie du côté de l'Élysée, s'ils sont contents ou pas, mais bon, j'imagine que s'ils recommencent, c'est qu'ils ont dû être contents de la première version avec Thibaut InShape à l'époque du service civique universel. À mon avis, c'est que ça leur plaît. Comme tu disais, c'est comme avec une marque, quand on est en train d'hésiter entre est-ce qu'on doit acheter de l'espace publicitaire ou est-ce qu'on doit acheter de l'influence marketing. Si tu peux pas acheter d'espace publicitaire, t'achètes de l'influence marketing, c'est la même chose.
Et alors, est prévu hein, un acte 2 sur cette communication McFly Carlito versus hein. Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron qui devrait être reçu sur le studio de McFly et Carlito pour un échange avec leur fameux challenge, etc. C'est fou. Moi, je trouve cette histoire, ce qu'on est en train de vivre, c'est fou. Alors, c'est fou pour nous, Français. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien ce qui se passe outre-Manche, outre-Atlantique, pardon, je veux dire, Obama était déjà, au cœur de ce qui faisait la pop culture américaine et tout le monde, personne s'en choquait. Tout le monde trouvait ça assez logique et normal. Et c'est vrai que nous, en France, on n'est pas habitué à ça. Normalement, t'as une vie culturelle et on fait en sorte que cette vie culturelle, elle soit pas
envahie par la vie politique.
Exactement.
Mais après, même dans l'élection, on a vu hein, l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui a reposé sur toute une stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux aussi. Donc, il y avait vraiment déjà aux États-Unis, au cœur de la, pas de la dernière du coup, mais l'avant-dernière élection présidentielle, les réseaux sociaux comme vraiment terrain médiatique, terrain de jeu pour les politiques. Et on sent que cette année, jusqu'à l'année prochaine et les élections présidentielles en France en 2022, on va avoir un peu les mêmes tendances et le même effet, quoi.
On va en bouffer, bien sûr. Et alors, ça, c'est un morceau. Et puis, alors, il y a un autre truc là qui vient de tomber et je trouve ça aussi très intéressant. C'est de son côté, eh bien, la France Insoumise vient de lancer son propre réseau social. Alors, Mélenchon a sa manière manière, c'est quand même déjà un big player hein, des réseaux sociaux. Hein. Il est à peu près sur toutes les plateformes. Il produit énormément de contenu avec une prise de parole très directe. Et les codes sont assez maîtrisés. Hein. C'est un orateur.
Ça va, oui, c'est un bon orateur. Et puis sur YouTube, c'est quand même 500 000 abonnés pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de politiques qui aient autant d'abonnés sur une chaîne YouTube. Et puis, il est présent déjà sur Twitch, sur TikTok aussi. C'est quelqu'un qui est tout de suite allé. C'est un politique qui est tout de suite allé sur ces nouvelles plateformes.
Sur ces territoires-là, avec cette fois-ci un nouveau challenge pour la France Insoumise qui a décidé de créer sa propre plateforme sociale. Ça s'appelle Action Populaire. Qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est une plateforme d'échange entre gens qui sont adhérents hein, du parti La France Insoumise et qui du coup peuvent échanger entre eux. Hein. Donc il y a des forums, il y a des groupes de discussion, peuvent créer des groupes de réflexion, des groupes d'action, etc. C'est un vrai réseau social autour d'un parti politique.
Ouais, c'est ça, c'est le réseau social de La France Insoumise en fait. Hein. On va retrouver tous les soutiens de, en gros, la baseline, c'est si tu soutiens Jean-Luc Mélenchon, viens t'inscrire sur ce réseau. Les explications qui sont données par La France Insoumise, c'est vraiment de dire on ne veut pas quitter les autres réseaux sociaux, c'est pas pour quitter Twitter, Facebook, etc. C'est plus parce qu'on n'a pas envie de dépendre uniquement des algorithmes de ces grandes plateformes sociales et on a envie, si on veut pouvoir parler à notre base, parce qu'au final c'est ça, hein, là, ce réseau social-là, Action Populaire, il va servir à ça, Mélenchon, pour toute l'année qui vient, c'est de pouvoir parler à sa base d'électeurs et quand il a envie de leur parler, bah, ne pas dépendre des algorithmes de Facebook,
avec
de Twitter,
un mot,
etc.
Avec un mot qui a été lâché, hein, c'est le mot censure, avec la crainte derrière, en tout cas une vraie défiance vis-à-vis des GAFA, de dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les élections vont être orientées, ou en tout cas, est-ce que les GAFA vont jouer un rôle qui va au-delà juste d'être des plateformes d'information?
Je pense que là-dessus, le mot censure, il est fort. Après, c'est juste que le fonctionnement des algorithmes fait qu'on peut être un homme ou une femme politique, donner un discours sur Facebook ou sur un réseau social et au final, pas toucher les fans qu'on aimerait toucher parce que l'algorithme décide que ça n'intéresse pas les gens. Et je pense qu'en tant qu'homme ou femme politique, eux, ils le vivent un petit peu comme une manière d'être censuré, de ne pas arriver à toucher les personnes qui les suivent sur ces plateformes-là. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir s'il y a d'autres partis politiques qui vont suivre, emboîter le pas de la France Insoumise et monter leur propre plateforme de communication.
Voilà, évidemment, alors je ne peux pas m'empêcher de voir le parallèle avec ce qui est en train de se produire du côté de Trump et ses partisans qui justement s'extraient des réseaux sociaux usuels pour créer eux aussi, avoir une réflexion sur créer leur propre réseau social. Peut-être que c'est un tendanciel fort ça aussi, je ne veux pas être dépendant des GAFA. Bref, beaucoup de choses à dire et je pense qu'on sera amené à en reparler ici dans le Super Daily, parce que oui, le social media, c'est aussi ça, c'est au cœur de nos vies culturelles évidemment, mais aussi au cœur de nos vies de citoyens, et bah du coup forcément, les politiques ils sont là, hein, ils frappent à la porte et ils ont bien envie de veillir nos feeds.
Ouais, vous écoutez ce podcast hein, d'ailleurs sur une plateforme de podcast, alors n'hésitez pas à en parler autour
à
de vous et puis à voter déjà pour nous pour 2022, hein, superlatif président. Non mais surtout si vous avez des questions par rapport à ça, ou que vous avez envie de prolonger ce débat-là qui est, je trouve, un débat passionnant. D'ailleurs, on a fait un épisode qui est assez long, donc merci si vous nous écoutez encore dans cet épisode. En tout cas, venez en parler avec nous sur les plateformes sociales, justement, @supernatif, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions et qu'on prolonge ce joli débat. Et sinon, venez nous rejoindre tous les matins sur Twitch en direct.
Oui, et puis partagez cet épisode de podcast à une pote, à un pote. Et puis, allez, une dernière petite faveur pour vous qui nous avez écouté jusqu'au bout. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, mettez-nous, s'il vous plaît, 5 étoiles avec un petit commentaire, ça nous fera très plaisir.
Allez, ciao, ciao.
Salut à tous, ciao.